L'écriture et plus particulièrement de l'écriture alphabétique. Nous avions vu la dernière fois que l'écriture alphabétique ne pouvait en aucune manière découler des systèmes d'écriture les plus anciens, et notamment des deux grands systèmes d'écriture, que sont l'écriture hiéroglyphique égyptienne et l'écriture cunéiforme mésopotamienne. Or, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'au XIIIe siècle, en Phénicie, au Liban, si vous voulez, ou en Syrie, on trouve à Rachama ou Garit un sarcophage, qu'on appelle le sarcophage du roi Hiram, qui est un texte, sur lequel est inscrit un texte en caractère cunéiforme, mais chaque caractère cunéiforme correspond à un signe alphabétique. Ça veut dire que brusquement, sans transition, entre l'écriture hiéroglyphique et l'écriture cunéiforme, apparaît au XIIIe siècle. Donc dans la région de Liban-Syrie, l'écriture alphabétique parfaite. Non, pardon, ce n'est pas sur le sarcophage de Hiram, ce sont des tablettes qui sont le sarcophage de Hiram, c'est un alphabet aussi, mais avec d'autres signes. Alors, comment se fait-il que soudain apparaisse cette trouvaille géniale? Quel est le génie qui a découvert que l'on pouvait décomposer toute langue humaine en un ensemble de, disons, 20 à 30 signes, et qu'à partir de ces 20 ou 30 signes, on peut reconstituer absolument tous les langages? Ça, c'est vraiment un trait de génie extraordinaire. Comment en est-on arrivé? Eh bien, au début du siècle, on a commencé à mettre à jour des écritures, des types d'écritures très simples, des inscriptions, qui étaient écrites avec ce qu'on appelle un caractère proto-alphabétique. Ça n'était pas encore vraiment l'alphabet, mais c'était déjà une amorce de l'alphabet. Or, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que ces différents types d'écritures alphabétiques anciennes apparaissent essentiellement en Israël et dans les pays voisins. Et aujourd'hui, toutes ces données sont remises en question par des découvertes de type récent d'écriture alphabétique en Israël qui datent du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On croyait ici qu'avant l'époque d'Elamarna, l'écriture alphabétique était totalement inconnue et on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. En 1905-1906, Sir Flinders Petrie, qui était un des grands précurseurs de l'archéologie moderne, a découvert dans le Sinaï des plaques de cuivre anciennes qui provenaient d'un temple égyptien sur lequel il y avait des statues. Et dans les débris de stèles, il y avait une écriture inconnue qu'on appelle pour cette raison l'écriture proto-sinaïtique parce que justement elle provient du Sinaï. Ces signes sont des images, symboles, qui ressemblent parfois au signe égyptien hiéroglyphique, mais cela dans le dernier stade de leur évolution. Mais on sait que leur origine n'est pas égyptienne. Vraisemblablement, il s'agissait de mineurs qui étaient réduits en esclavage par les Égyptiens, comme le seront les Israélites, n'est-ce pas, qui étaient originaires d'Asie, c'est-à-dire d'Israël, en gros, si vous voulez, le pays de Canaan à cette époque-là, et qui avaient amené avec eux leur langue et qui avaient tenté de donner un certain nombre, de décrire un certain nombre d'inscriptions avec un ensemble de 40 signes. L'écriture proto-sinaïtique comprend essentiellement 40 signes pour les textes les plus anciens et on descend jusqu'à 32 signes pour les textes les plus récents. Il s'agit en fait d'une écriture fondamentalement alphabétique. Et ça, c'est absolument prodigieux. En 1916, un archéologue du nom de Gardiner va reprendre cette découverte de Sir Flinders Petrie et il va lire, n'est-ce pas, dans cet ensemble, n'est-ce pas, d'inscriptions proto-sinaïtiques, le nom de Baalat, qui est le nom sémitique de la déesse égyptienne Hathor, qui était particulièrement prisé des mineurs des mines de turquoise dans lesquelles se trouvaient justement ces fameuses inscriptions. Il a une grande ressemblance avec l'alphabet sud-arabique qui date du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et là, nous avons affaire à une langue proche du cananéen, c'est-à-dire des sémites de l'Ouest. Puis, il a réussi à lire le mot Taanat, qui est aussi le nom d'une autre divinité cananéenne. Et, on a ici une petite idée de ce que pouvait être la langue et de ces gens-là qui avaient conservé leur langue dans leur esclavage égyptien, qui avaient aussi conservé leur religion et qui donc rendaient hommage à leur dieu par ces inscriptions. Donc ça, c'était la première découverte d'une écriture, encore une fois, foncièrement et fondamentalement alphabétique. Deuxième découverte, des débris d'inscriptions, cette fois-ci, qui ont été découverts en Israël et en Syrie, et qu'on peut retrouver jusqu'à la Babylonie. C'est ce qu'on appelle les inscriptions proto-canadiennes d'Israël, qui représentent différents types d'alphabets. Il n'y a pas, parmi ces inscriptions-là, un type d'alphabet unique. Elles sont également différentes, ces inscriptions, de l'alphabet proto-sinaïtique, et elles sont aussi le reflet d'une langue qui est tout à fait différente. Toutes ces inscriptions proto-sinaïtiques ne sont pas proprement parlées alphabétiques, et certaines se rapprochent de l'écriture syllabique, voire de l'écriture idéographique, n'est-ce pas ? Et il y a finalement un mélange. Donc on peut les classer chronologiquement de la manière suivante. Les plus anciennes sont celles qui ressemblent le plus à l'écriture proto-sinaïtique. On a par exemple une inscription sur la pierre de Sichem qui date du 18e et du 17e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Nous avons ensuite une partie d'inscription sur terre cuite qui date du 17e au 15e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, des inscriptions sur cuivre à la riche, qui date de la même période. Des inscriptions sur terre cuite à Tel el-Khessi du 15e, 14e siècle et même du 12e siècle. Des inscriptions sur terre cuite de Beth Eglaïm qui date du 14e siècle. Des inscriptions sur poterie à Lachish du 13e siècle. D'autres qui sont moins claires. Et puis ensuite des inscriptions sur terre cuite aussi à Beth Shemesh du 13e, 12e siècle. Et enfin, des inscriptions qui nous viennent de Tel el-Saram du 13e au 12e siècle. Il n'y a pas, encore une fois, de relation entre ces inscriptions et puis l'alphabet proto-sinaïtique, dont nous n'avons pas du tout affaire au même type d'alphabet, même si parfois des lettres se ressemblent. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'inscription du Sinaï a été écrite dans une langue qui n'était pas une langue sémite. Tandis que celles d'Israël sont en cananéen, ce qui fait que nous avons affaire à des inscriptions différentes de celles qu'on trouve dans le Sinaï. Ces inscriptions sont toutes situées dans la région de Sichem, ce qui est tout à fait intéressant. Et il semble que l'écriture proto-sinaïtique serait une variante de l'écriture cananéenne, apportée par les Israélites dans le Sinaï et après un développement, n'est-ce pas, cette écriture a servi à calligraphier les noms des dieux sémites et à écrire dans une langue non sémite. Donc, si vous voulez, l'écriture alphabétique est venue d'Israël. Ça, c'est la première conclusion à laquelle nous arrivons. Autre point, l'alphabet cunéiforme du Ugarit dont nous avons parlé il y a un instant. En 1929, à Rachama Ugarit, on découvre une écriture cunéiforme semblable au suméro-acadien, mais avec des signes cunéiformes et non pas un alphabet, si vous voulez, un alphabet autre. Mais chaque signe a une valeur alphabétique. Et cette inscription de Hacham al-Gharib date du 14e, 15e siècle avant Jésus-Christ. Et cet alphabet a servi à écrire la langue sémitique d'Ugarit qui nous est bien connue, avec des légères modifications, une langue orite qui était une langue voisine, qui était une langue cette fois-ci non sémite. Là, nous avons 31 signes qui vont être réduits à 22 par l'alphabet cananéen, et cela pour des raisons sur lesquelles je passe, n'est-ce pas ? Bon. On écrit de gauche à droite, comme l'écriture cunéiforme ou le hittite, et à l'inverse de l'alphabet cananéen et hébreu. Entre chaque mot, il y a un signe particulier, comme en cananéen ancien, pour montrer justement qu'on a affaire à un autre mot. Et on a retrouvé, à partir de cette période-là, ce même alphabet ougaritique, ce cunéiforme ougarite, dans différents endroits aussi d'Israël. Par exemple, Beth Eglaïm, sur une poterie du XIVe siècle, où on aurait découvert un nom propre. Une lance de bronze de l'Achish du XVIIIe, XVIIe siècle, où une forme humaine tient une lance à la main, et une partie d'un vêtement, on ne sait pas sur lequel est un chiffre qui n'a pas encore, un signe qui n'a pas encore été tout à fait déchiffré, et puis une lance de bronze qui a été découverte à l'Achish au XVIIe, XVe siècle avant Jésus-Christ, qu'on lit de haut en bas cette fois-ci, n'est-ce pas? Il semble que ce soit là, il y ait là le nom de roi égyptien, notamment le mot Melech, roi, semble apparaître justement sur cette lance, avec, semble-t-il, le nom d'une ville, roi de telle ville, n'est-ce pas? On n'a pas réussi à déchiffrer le nom de la ville. Et puis enfin, ça continue. Quatrièmement, un ostracone, c'est-à-dire un tesson de poterie de Gezer, du XVIIe siècle, XVe siècle avant Jésus-Christ, qui servait aux offrandes, et on trouve une main. Sur laquelle on dit Kaf, main, justement. D'autres, on peut lire aussi Levana. Levana, c'est le nom de la lune. C'était donc certainement un objet qui avait à voir avec un culte lunaire, etc. Bon, on retrouve aussi à Tel El-Fressi une inscription qui porte Bala. Est-ce que c'est à voir avec Balaam, le Balaam biblique, n'est-ce pas? Bon, c'est possible, n'est-ce pas? Il y a là quelque chose qui ressemble énormément à l'alphabet proto-ougaritique où on a découvert le nom Balat. C'est pas Bala, Balat, c'est finalement quelque chose qui est assez proche. Poterie de l'Achish du XIIIe siècle, sixième point. Et puis enfin, une poterie du XIIIe siècle où on lit Beshlochet, c'est-à-dire la troisième année, en alphabet cananéen cette fois-ci. Et puis enfin, un ostracone de Tel El-Fara qu'on lit de haut en bas, avec plusieurs lignes, et on trouve un mot complet qui est le mot Allah. Neuvième point, à Beth Shemesh, on a une écriture qui ressemble au proto-sinaïtique, comme le précédent, qu'on lit de haut en bas également. Bien, on écrivait aussi sur des papyrus, on le sait, sur des pots. Il y avait certainement pour cela d'autres signes que nous ne connaissons pas, pour une raison bien simple, c'est que ces matériaux ne se conservaient pas avec le temps, à l'inverse de la pierre, par exemple, ou du métal, n'est-ce pas? Tant et si bien que nous ne savons pas comment on écrivait sur le papyrus et sur les peaux de bête. Nous savons que tout ce qui se faisait en matière d'écriture alphabétique à cette époque-là, tout ce que nous savons vient justement de l'alphabet cunéiforme ougarite, ou bien ensuite, plus récent, du sarcophage d'Al-Ikram dont nous parlions tout à l'heure. Ce qui est certain, n'est-ce pas, c'est que ces deux types d'écriture sont les plus anciens. Sont très anciens. Quel est le plus ancien? Ça, on ne sait pas. Mais il semble bien, n'est-ce pas, que ces deux types d'alphabet, puisque finalement c'est deux types d'alphabet, descendait d'un ancêtre commun. D'un ancêtre commun qui nous est inconnu et dont l'origine était, semble-t-il, ougaritique. Ensuite, il y a eu une prolongation et une simplification du cunéiforme et sa forme est fixée par le roi d'Ougarit, comme on le voit justement dans l'inscription. D'Ougarit, il passe en Israël, où il sert à la langue cananéenne. Et puis, nous avons ensuite différents textes qui vont naître aussi à partir de cette période-là. Nous avons aussi une écriture qui est qualifiée de pseudo-hiéroglyphique, et en particulier qui nous vient de Gval, Byblos, en Phénicie. On sait par exemple qu'au XIe siècle, un personnage, un haut fonctionnaire égyptien du nom de Venamon, avait été envoyé par le roi d'Égypte, Pharaon, notamment à Gval, pour y chercher des cèdres du Liban. Des cèdres du Liban qui étaient fort réputés et qui étaient très importants pour les Égyptiens pour la fabrication des cercueils. L'Égypte est presque dépourvue de bois, de bois de forêt naturelle, n'est-ce pas? C'est un désert. Par conséquent, il n'y a pas de bois. Et pour les constructions de bois, les Égyptiens, dès les origines de leur empire, ont été amenés à commercer avec le Liban. Et les premières colonies égyptiennes qui ont été créées en Asie l'ont été au Liban pour justement servir de point d'aboutissement des bois qui venaient des montagnes du Liban, des bois de cèdre, qui étaient ensuite emmenés par mer jusqu'en Égypte. XIe siècle, donc, ce commerce de bois se poursuit, mais l'Empire égyptien est en pleine déliquescence à cette période-là, et le pauvre Rhénamon va subir rébuffade sur rébuffade, camouflé sur camouflé, et il reviendra les mains vides, bien heureux d'avoir sauvé sa peau d'ailleurs, complètement dévalisé, complètement détroussé de l'argent qu'il avait sur lui, n'est-ce pas? Et il a fait un récit assez pathétique et émouvant de son voyage qui nous est parvenu. Et ce qui est tout à fait intéressant, n'est-ce pas, c'est de noter que ce fameux Rhénamon cite dans son fameux récit de voyage des inscriptions qui ont un caractère hiéroglyphique spécial qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Il y a plus de 30 signes qui sont proches de l'alphabet cananéen, le proto-sinaïtique. Parfois, on trouvera une centaine de signes qui vont évoluer vers une écriture beaucoup plus alphabétique. On peut reconnaître, par exemple, des groupes de mots qui reviennent ou qui sont représentés par des lettres, etc., etc. Nous avons donc ici un alphabet proto-sinaïtique proto-alphabétique qui, lui, est à partir, si vous voulez, de signes qui sont d'anciens hiéroglyphes auxquels on a donné une valeur alphabétique. Bon, finalement, c'est Akval, Biblos, qu'apparaîtra le premier alphabet cananéen. La question qui se pose, c'est celle de son origine. Le sarcophage d'Alichar qu'on trouve à Biblos, justement, Akval, lui date du XIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire justement de l'époque du voyage de Rhénamon dans cette région-là. Et nous avons des documents qui sont beaucoup plus anciens, dont nous savons, n'est-ce pas, que l'alphabet de Akval, l'alphabet du sarcophage d'Alichar, est finalement issu. Donc, on peut conclure que Akval n'est pas l'endroit où est né non plus l'alphabet. Donc, ici, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Il est clair qu'en comparant ces différents types d'alphabets, que certaines lettres ont une origine commune. Donc, ici, il y a dû y avoir, à l'alphabet, une origine commune, avec des divergences ensuite, soit qu'on l'ait écrit avec des caractères cunéiformes, soit qu'on l'ait écrit avec des caractères hiéroglyphiques, soit qu'on l'ait écrit avec des caractères totalement nouveaux, qui vont être ceux qui vont, en fin de compte, perdurer. Ce qui est certain, c'est que cet alphabet a commencé en Syrie des centaines d'années auparavant, avant l'histoire d'Arifram, et que ensuite les descendants de ces gens qui ont inventé l'alphabet sont venus s'installer à Ougarit. Et alors maintenant nous arrivons à cette conclusion tout à fait étonnante, c'est que lors de la conquête par Josué, l'alphabet donc existait. Et ça c'est très important de dire, parce que un des gros arguments des critiques, c'était qu'à l'époque de Moïse, l'alphabet n'existait pas. Et que par conséquent, la Torah n'a pas pu être écrite que telle qu'elle est aujourd'hui. Et que ce que l'on a aujourd'hui est quelque chose qui date bien après Moïse. En fin de compte, il n'en est rien. Ces différents alphabets que nous avons évoqués là montrent qu'à l'époque de Moïse, à l'époque de la conquête, si vous voulez, l'alphabet tel que nous le connaissons, avec ses 22 lettres, était parfait. Comme on le voit justement à la fois dans l'alphabet d'Ougarit et dans celui justement de Akval. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lors de la conquête, l'hébreu, qui était la langue qui servait à l'adoration du Dieu unique, apparaît comme un témoignage ancien de la foi d'Israël, et l'écriture alphabétique va servir pour transmettre ce témoignage-là. Et c'est en fait les Israélites qui introduisent l'alphabet dans le pays de Canaan, qui le transmettent aux Cananéens lors de la conquête, et à partir de là, qui vont le transmettre au peuple voisin. Donc, l'alphabet est lié directement aux origines d'Israël et aux origines de la Torah. Voilà, si vous voulez, la conclusion à laquelle nous pouvons arriver à ce stade de notre étude. Mais nous allons encore aller plus loin, comme vous allez voir. Cet alphabet hébreu va demeurer quasiment sans changement en usage tant chez les Hébreux que chez les Cananéens. De là, il passe aux Phéniciens, d'où le fait qu'on le retrouve au XIe siècle à Akval, puis en Moab, à Édom, et puis ensuite dans une grande partie de l'Asie mineure, avec des légères modifications dans le dessin de certaines lettres, et d'Asie mineure, il va passer en Grèce, avec quelques modifications, puis de Grèce, il passera en Occident, et ce sera l'ancêtre de notre alphabet actuel, celui que nous utilisons couramment. Par exemple, la dernière évolution de cet alphabet, on la retrouve à l'époque des Maccabées, n'est-ce pas, dans des lettres qui sont un petit peu différentes. C'est la dernière évolution, n'est-ce pas, de l'alphabet que l'on appelle d'hébreu ancien. Le mot alphabet est utilisé dès le début du premier millénaire par la langue cananéenne, et il est tout à fait intéressant de noter qu'il va être adopté aussi pour l'araméen. L'araméen qui va devenir au premier millénaire la langue internationale, la lingua franca, comme l'anglais de nos jours. Et bien entendu, vu la commodité de l'alphabet hébraïque, en quelque sorte, par rapport au cunéiforme, qui avait été la langue de la Mésopotamie jusque maintenant, n'est-ce pas, les Araméens vont abandonner l'écriture cunéiforme et ils vont adopter l'écriture alphabétique. Ils vont la modifier, si vous voulez, en l'écrivant d'une manière différente, c'est-à-dire en faisant des signes, c'est les mêmes signes, mais les signes sont écrits de manière différente. C'est là que naît ce qu'on appelle l'alphabet carré. Cet alphabet carré, les Hébreux entrent en contact avec lui pendant l'exil à Babylone. Et durant l'exil à Babylone, pour des raisons que l'on ignore, ils vont abandonner l'ancien alphabet des Rêtes d'Israël et ils vont adopter l'alphabet cananéen, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hébreu carré. Et aujourd'hui, l'hébreu tel qu'on le lit, par exemple, dans la Bible, depuis Ezra, finalement. C'est Ezra qui retranscrit, si vous voulez, le texte sacré dans cet hébreu carré. Et depuis, n'est-ce pas, il va y avoir une transmission de la Bible en hébreu carré. Alors, ça ne change absolument rien. Absolument rien sur le plan du sens. Absolument rien sur c'est exactement la même valeur des lettres. C'est comme si vous voulez, plutôt que d'adopter l'alphabet minuscule, nous adopterions l'alphabet majuscule. Au lieu d'écrire un texte en minuscule, on l'écrirait en majuscule. C'est exactement la même chose. La majuscule, c'est une autre manière d'écrire le même signe, en fin de compte. Eh bien, si vous voulez, l'ancien hébreu et l'hébreu carré, c'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez, ça ne change strictement rien à rien. Alors, l'araméen devient la langue internationale, elle passe en Égypte et en Israël, et finalement, elle va se répandre dans tout le Moyen-Orient ancien. Donc, lors de l'exil, les exilés reprennent avec eux cet alphabet-là. Seuls les Samaritains conserveront l'ancien alphabet jusqu'à nos jours. C'est pas... Les Asmonéens tenteront aussi de revenir à l'ancien alphabet pour des raisons qui nous échappent. C'est pas... Et puis, par exemple, Ezra affirme que c'est, le Talmud affirme que c'est Ezra qui a fait cette transformation-là. En tout cas, ce qui est important, c'est de noter qu'il y a eu cette révolution au moment du retour de l'exil. Alors, ensuite, on peut suivre aussi l'évolution de l'alphabet jusqu'à la fin du Deuxième Temple. Bon, dans les manuscrits d'Amermorte, il y a une manière un petit peu différente aussi d'écrire les lettres, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et c'est très important, n'est-ce pas, pour la transmission de la Bible. Parce que la Bible avait des sources qui remontaient à l'époque des patriarches. Et ces sources ont été écrites, donc, dès le début, semble-t-il, dans les écritures, les fameuses écritures proto-sinaïtiques, proto-alphabétiques, si vous voulez. Donc déjà, dès le départ, il y a eu les anciennes traditions d'Israël, qui ont été ensuite recueillies par Moïse, ont été écrites par des procédés qui étaient très proches, finalement, de ceux de l'écriture, disons, moderne. Et bien sûr, ces anciennes traditions-là, qui, certaines, venaient aussi de Babylonie, puisqu'Abraham, le patriarche, était originaire de Babylonie, n'est-ce pas, sont passées par toutes les formes, toute l'évolution de cet alphabet dont nous avons parlé ici très brièvement, et c'est en relation directe, n'est-ce pas, avec ces traditions-là, semble-t-il, que l'on a inventé l'alphabet. Bon, avant de conclure définitivement, il y a une autre question qui se pose, n'est-ce pas ? Sur quoi écrivait-on ? Sur quoi la Bible a-t-elle été écrite ? Au début, on écrivait sur de la pierre. Ésaïe 10, verset 1. Job, verset 19, verset 23, Exode 31, verset 18, les 10 commandements ont été écrits sur des tables de pierre, tandis que l'écriture cunéiforme, l'avons vu, était inscrite sur de la terre cuite. En Égypte, on écrivait essentiellement sur des papyrus et sur de la pierre aussi, bien sûr. Bon, quand Gédéon voulut punir les gens de Soukhot, il prit un garçon auquel il fit écrire le nom des anciens. C'est très intéressant cette mention, ça veut dire qu'il prend le premier venu, ça, et il lui fait écrire le nom des anciens de la ville de Soukhot, qu'il veut châtier, vous vous souvenez. Et ce garçon était capable d'écrire. Ce qui prouve que beaucoup de gens étaient capables de lire et d'écrire à cette période-là. Or, c'est impensable, absolument impensable, si nous avions eu affaire à une autre écriture qu'à une écriture alphabétique. N'importe qui, effectivement, est capable aujourd'hui d'apprendre à lire et à écrire avec 22 lettres, et un peu plus dans notre alphabet à nous, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas concevable, n'est-ce pas, qu'un jeune garçon puisse être capable d'écrire d'écrire en cunéiforme, pour lequel, n'est-ce pas, une connaissance minimale de plusieurs milliers de signes est indispensable. Même chose en ce qui concerne les hiéroglyphes. Donc ici, à l'époque des juges, il y avait une expansion de l'écriture très importante. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Ça ne veut pas dire que l'illettrisme n'était pas très développé. Certainement, il était beaucoup plus développé qu'il ne l'est de nos jours. Mais ça veut dire que la capacité d'écrire était déjà connue par une grande partie de la population de ces pays-là. Ça nous montre qu'il y avait une grande expansion de l'écriture à cette période-là déjà. Ésaïe 10, verset 19, Ésaïe 8, verset 1, Habacuc 2, verset 2, nous montrent que les prophètes écrivaient. Ils écrivaient aussi, parfois, pour frapper leur auditoire, ce qui n'aurait pas eu de sens si les gens n'avaient pas été capables de lire. C'est évident que s'ils avaient écrit simplement pour le plaisir de l'écrire eux-mêmes, ça n'aurait pas de sens. Donc ça nous montre aussi combien l'écriture était quelque chose qui était répandu au sein du peuple d'Israël dès une période extrêmement ancienne. Bon, on écrivait sur des pierres, je disais tout à l'heure, j'ai cité des textes, soit sur un rocher naturel, pour commémorer un événement particulier, soit sur des tables, comme les deux tables de pierre qui ont servi à l'écriture des 10 commandements, qui étaient spécialement taillées à cet effet. On écrivait avec un burin de fer, Jérémie 18, verset 3 et 9, Zacharie 7, verset 14, comme dans les obélisques égyptiens. C'est exactement le même procédé. On écrivait aussi d'une manière plus simple sur des pierres, d'une manière beaucoup plus simplifiée, ce qu'on appelle des graffitis. Alors là, on ne prenait pas la peine d'écrire avec autant de soin, c'est pas avec un burin, ça devait prendre du temps, certainement. Tandis qu'un graffiti, il suffisait de prendre une pointe de clou, par exemple, pour effleurer simplement, n'est-ce pas, le rocher. Par exemple, dans certains endroits, il y a des graffitis qu'on retrouve encore, non seulement des écritures, mais également des dessins qui sont faits de cette manière-là, pas, qui sont des choses très très simples, n'est-ce pas. Ça existe aussi. On écrivait aussi dans un livre. Alors, le livre, le mot séfer, en hébreu, signifie tous les types de littérature. Quand nous parlons d'un livre, nous pensons immédiatement, nous, à quelque chose comme ça. Bon. Le mot livre dans la Bible est beaucoup plus vague. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel matériau, outre la pierre, n'est-ce pas, sur lequel, finalement, on écrit. Alors, ça peut être des lettres ou des documents divers. Par exemple, on connaît des lettres nombreuses de cette période-là, par exemple, ce qu'on appelle la lettre du Metzav HaShaviahu, où un ouvrier journalier se plaint au gouverneur de Jérusalem. C'est une lettre qui date de l'époque de Josias, et il lui dit ton serviteur était en train de moissonner comme d'habitude, est arrivé le contremaître, n'est-ce pas, il a trouvé que ton serviteur ne travaillait pas suffisamment, il m'a confisqué mon manteau, puis il ne l'a pas rendu. Or, la Torah prescrit que, n'est-ce pas, il faut rendre son manteau à un journalier si on lui prend son gage, n'est-ce pas, son manteau en gage, il faut lui rendre avant la tombée de la nuit pour qu'il n'ait pas froid quand il dort. Et se trouve que ce contremaître-là a violé le commandement de la Torah, il ne m'a toujours pas rendu mon manteau. Alors je te prie de faire en sorte que ce contremaître indélicat me rende mon manteau. Voilà, par exemple, un cas, c'est un livre, n'est-ce pas ? Et alors, y a aussi un autre cas, n'est-ce pas, un petit peu plus tard, d'un fonctionnaire royal qui se plaint de calomnie, qui dit « Oh, qu'est-ce que c'est que j'ai lu dans le livre ?» qui est arrivé, n'est-ce pas, qui prétend que j'ai agi de telle ou telle manière, alors qu'il se défend d'avoir agi de cette manière-là. Le livre, c'est une simple lettre, hein, mais c'est le mot « livre », le mot « sefer » qui apparaît là. Bon, on utilisait aussi le livre, entre guillemets, pour écrire des lois, des documents légaux, n'est-ce pas ? Bon, par exemple, les 10 commandements sont des documents légaux au départ, et la Torah aussi, n'est-ce pas ? Des contrats commerciaux, des arrêtés de tribunaux, des listes de noms à l'occasion de recensements ou des documents administratifs divers, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mémoire collective ou individuelle, des reçus d'impôts, par exemple, ou de salaires. Tout ça aussi c'était mentionné dans des livres. Alors sur quoi écrivait-on ces livres ? Le matériau le plus courant, le plus répandu pour cela, c'est ce qu'on appelle l'ostracon. Ostracon, ça vient d'un mot grec, ostraka au pluriel, qui signifie tesson de poterie. Bon, le tesson de poterie, une plaque de terre cuite, en fin de compte, tout simplement, tout bêtement, n'est-ce pas, qui peut être de différentes tailles, bien entendu, ce ne sera jamais très grand. Donc, si vous voulez, on écrit sur des tessons de poterie pour des courbillers. Hein, par exemple, la lettre de ce fameux fonctionnaire, ce fameux moissonneur auquel on a confisqué son manteau, est écrite sur un ostracone. La deuxième lettre que j'ai évoquée tout à l'heure est aussi écrite sur un ostracone. Hein. Pour des courbillers, ça va. Alors, écrit avec de l'encre, tout simplement. Hein. Écrit avec de l'encre. Bon. Alors, il y a des milliers d'ostracas qui nous sont parvenus de différentes époques et qui sont très intéressantes, justement, à ce niveau-là. Si on veut un matériau un petit peu plus noble, on écrira sur des plaques de bois. Bon, ça, c'est déjà plus cher. Donc, on ne va pas écrire n'importe quoi. On ne va pas écrire des choses banales sur des morceaux de bois. Malheureusement, le bois, à l'inverse de la terre cuite, c'est un matériau qui se détériore. Tant et si bien que aucun écrit sur bois ne nous est parvenu. Mais nous savons que le bois est utilisé pour cela. Autre matériau, alors infiniment plus noble, alors c'est le papyrus. Le papyrus, c'est une sorte de papier, c'est l'ancêtre du papier en fin de compte, qui est fait à partir d'une plante qui pousse dans les endroits humides, notamment le delta du Nil, qui porte le nom de papyrus justement, et dont on prend les feuilles, on les coupe en fines lamelles, et puis on en fait un entrelac, c'est pas ? On en fait un entrelac comme ça, c'est pas ? Pour faire une feuille, en fin de compte, une feuille de papyrus. Alors, vous comprenez que faire une feuille de papyrus à peu près du format standard, hein, c'est un travail monumental. Parce que les lamelles que l'on coupe, n'est-ce pas, font à peu près 2 ou 3 mm de largeur. Et il faut faire cet entre-là, puis ensuite on passe une espèce de colle dessus pour maintenir l'ensemble, pour le figer, n'est-ce pas, et puis ensuite pour que aussi ce soit plus facile d'écrire, pour que ça glisse, n'est-ce pas, ça glisse sur le papyrus. Bon, remarquons qu'on peut encore trouver des papyri qui sont fabriqués par ce procédé-là aujourd'hui, n'est-ce pas, bien entendu, à l'échelon industriel. Bon, ça n'a plus de valeur que folklorique et que c'est pour les touristes qui vont en Égypte, on peut se procurer ça. Bon. Alors, quand on écrivait sur des papyrus, c'était qu'on avait des choses importantes à écrire. C'était quelque chose de très cher. Ce qu'on pouvait faire éventuellement aussi parfois, c'est qu'on réutilisait, n'est-ce pas, des papyrus qui avaient déjà été écrits. Alors, on effaçait le texte premier et puis on écrivait par-dessus. Alors, c'est très intéressant quand un papyrus de ce type nous tombe entre les mains, par des procédés techniques assez évolués, des rayons X ou des choses comme ça, on peut mettre en évidence le texte qui a été effacé, n'est-ce pas ? Et on peut lire à la fois deux textes. C'est une richesse quand on trouve un papyrus de ce type-là. Bon, alors le papyrus a un petit peu partage le même défaut que le bois, c'est que, étant un matériau d'origine organique, il a tendance à se détériorer. Mais il arrive parfois que dans des conditions exceptionnelles de conservation, par exemple dans des tombes particulièrement sèches, ou bien justement dans des pays très secs, dans des déserts comme l'Égypte, on peut retrouver des papyri qui sont à peu près intacts. Bon, ce sont les plus anciens papyri, ne remontent quand même pas, si vous voulez, aux aurores de l'humanité. Parce que malgré tout, plus le papier est vieux, plus il est dans un état de conservation mauvais. En fin de compte, les papyries que l'on trouve le plus couramment sont des papyries qui datent grosso modo des environs de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne. C'est les plus anciens. Il y en a des plus anciens. Mais, si vous voulez, les plus courants sont de cette période-là. Et enfin, n'est-ce pas, alors, vraiment, quand on veut passer au nec plus ultra en matière d'écriture, et qu'on veut écrire des grands textes, par exemple, des textes bibliques, alors on va utiliser des rouleaux de peau de bête. Des rouleaux de peau de bête qui sont au préalable tannés, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui pour les rouleaux de la Torah dans les synagogues juives, n'est-ce pas, et qui vont être cousus les uns aux autres. On découpe des bandes, comme ça, n'est-ce pas, on coud les unes aux autres, et puis on enroule sur de pièces de bois, on écrit colonne après colonne, n'est-ce pas, et on enroule au fur et à mesure. Bon, alors là, il est évident que dans cette manière-là, on peut faire des textes très longs. Malheureusement, évidemment, le problème, c'est que le prix de revient d'un rouleau de ce type-là est extrêmement élevé. Il faut abattre, parfois, pour avoir la Bible complète, il faut abattre des troupeaux entiers, n'est-ce pas, d'agneaux pour pouvoir utiliser leur peau. Le travail de tannage, de préparation des peaux est extrêmement long, donc automatiquement extrêmement coûteux. Tant et si bien qu'il n'y a pas une grande démocratisation, si je peux dire, de la Bible à cette période-là. La Bible reste l'apanage de quelques privilégiés, c'est-à-dire essentiellement, n'est-ce pas, il y a quelques exemplaires en tout et pour tout de la Bible à l'époque royale, quelques dizaines tout au plus dans tout le royaume d'Israël, dans tous les royaumes d'Israël et de Juda, qui sont essentiellement bien sûr dans le temple, éventuellement dans le palais des rois. Nous savons que Josué avait un exemplaire personnel qui ne devait pas s'éloigner de lui nuit et jour, il devait méditer dedans nuit et jour. Bon, ça vous est dit dans le premier chapitre. Il y avait peut-être dans les capitales administratives des lévites qui possédaient, n'est-ce pas, des exemplaires de la Torah, dans les hauts lieux aussi, n'est-ce pas, comme à Bethel ou à Dan ou à Beersheba ou des endroits comme ça, il devait y avoir des exemplaires de la Torah, mais finalement le menu peuple n'avait pratiquement jamais l'occasion de lire directement dans la Torah elle-même. Alors, et vous, là, ça relativise drôlement par rapport à nous la facilité avec laquelle nous nous procurons des exemplaires de l'Écriture sainte, et en même temps, ce qui explique la tendance, la facilité avec laquelle le peuple d'Israël se tournait vers les idoles. C'est évident que si il y avait eu l'imprimerie à cette époque-là, et que chacun avait eu la possibilité d'avoir une Bible chez lui et de la méditer jour et nuit, eh bien certainement que l'idolâtrie se serait beaucoup moins répandue en Israël. Mais là, c'était finalement les élites seules, et encore une petite partie des élites, qui avaient la possibilité d'avoir accès au texte biblique lui-même. Les manuscrits, les peaux de bête, n'est-ce pas, les parchemins, avaient aussi la même particularité que les papyri, c'est-à-dire qu'on pouvait les réutiliser. On effaçait donc le texte précédent, et puis on réécrivait par-dessus. C'est ce qu'on appelle des pélimpestes, n'est-ce pas, les savants appellent ça. Bon, on pouvait aussi, alors là, parfois écrit sur de l'ivoire. Bon, mais ça, c'était évidemment quand on voulait vraiment faire du super luxe. Il est évident que des tablettes d'ivoire ne permettaient pas non plus de longs discours. Il n'était pas question de l'utiliser pour des livres, n'est-ce pas? Bien, voilà en gros, si vous voulez, sur les matériaux sur lesquels on écrivait. En Israël, à l'époque biblique, on trouve quelques allusions à l'utilisation du papyrus. Par exemple, on retrouve des fragments dans des grottes qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être que le livre de Baruch, plutôt que le livre de Jérémie, a été écrit par Baruch sur des papyri. C'est ce qui semblerait transparaître de Jérémie 36, verset 23. Dans ce cas-là, il a fallu que... Bon, ça a été une petite fortune pour écrire le livre de Jérémie sur des papyrus. Parce que si c'était agi de peau, le roi n'aurait pas pu le couper en lamelles avec son canif, comme vous ai dit qu'il le fait dans ce texte-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais à l'époque du deuxième temple, alors on écrit essentiellement sur des peaux. À l'époque du deuxième temple également, il y a ce qu'on appelle la lettre d'Aristas, qui nous dit que les gens d'Alexandrie ont fait écrire la Bible sur des papyrus. Ça a dû être aussi une fortune. Quant au Talmud, il nous dit qu'au départ, un certain nombre de livres bibliques ont aussi été écrits sur des papyrus, des originaux. Donc les originaux ont été écrits sur des papyrus. On utilisait donc, semble-t-il, surtout la peau pour la Bible, et pour des lettres, des simples lettres, on utilisait les papyrus. C'est pourquoi, par exemple, peut-être que des livres courts, comme les livres qu'on appelle les petits prophètes, ou bien des oracles prophétiques, même, qui ont été ensuite ajoutés dans des livres plus importants, comme les livres de Jérémie ou les livres d'Ésaïe, ont été au départ écrits sur des papyrus. En tout cas, c'est ce que dit le Talmud. Bien entendu, on n'a pas eu la possibilité de le vérifier, mais enfin, en général, certaines des plus anciennes traditions du Talmud sont quand même assez fiables. Et puis, il semble que parfois aussi, on ait pu écrire sur des ostracas. Avec l'augmentation du niveau de vie, c'est-à-dire à la fin de l'époque royale, le papyrus a concurrencé la terre cuite et même la peau, n'est-ce pas ? Et finalement, le papyrus était devenu assez courant à la fin de l'époque du deuxième temple. Les Tanaïm, par exemple, distinguent trois types de parchemins. Il y a des mots hébreux qui les désignent. On appelle le gvil, qui n'est utilisé que d'un côté, qui est celui qui est utilisé en général pour écrire la Bible. Kalaf, qui est utilisé des deux côtés, mais il y a un côté de la peau qui est le plus utilisé, n'est-ce pas ? Et puis un autre type encore, n'est-ce pas, qui donc est celui qui est réutilisé. Les Tanaïm utilisent surtout le gvil, c'est celui par exemple qui a servi pour les manuscrits de Qumran. C'est toujours sous forme de rouleau. Le codex, c'est-à-dire le livre comme ça avec des pages, n'existe pas à cette période-là. À l'époque biblique, il n'y a que le rouleau. On le préparait, alors sur la préparation de ces manuscrits, alors le Talmud nous donne des indications très très précises sur le gvil et le calaf, n'est-ce pas, la différence entre les deux. Bon, il y a des règles qui sont données très très précisément. Il y avait des guildes de scribes qui avaient pour mission, n'est-ce pas, de rédiger d'abord les documents que tout un chacun voulait garder pour soi, les contrats commerciaux. Si on voulait acheter un champ, on voit ça par exemple dans le livre de Jérémie, il y a un contrat qui est signé, qui est scellé, qui est gardé dans les archives royales. On a retrouvé par exemple des fouilles archéologiques de Jérusalem, peut-être effectuées par le professeur Chilot dans les années 80, ce qu'on appelle la maison des bulles à Jérusalem, n'est-ce pas, qui date de l'époque de Jérémie, et dans laquelle étaient conservés justement les documents, tous les documents qui avaient... comme dans un notaire, si vous voulez, c'était un petit peu comme une étude de notaire, on appelait les bulles parce que les documents étaient roulés comme ça, enfin, il y avait une cordelette ensuite qui le maintenait, et puis, pour pas qu'on puisse ouvrir le document, n'est-ce pas, il y avait une espèce de plaquette de terre cuite qui le scellait, qui était, dans lequel, si vous voulez, la corde était prise, et ensuite ça séchait, puis on pouvait plus, il fallait casser, si vous voulez, la tablette pour pouvoir ouvrir le document. Et sur la tablette en terre cuite, il y avait la nature du document, qui était par exemple le contrat de vente entre Jérémie et son oncle de telle date. Comme ça, on savait, on pouvait le retrouver, c'était classé, c'était archivé. Alors bien entendu, quand on a découvert cette maison des bulles, les documents de parchemin avaient disparu, mais par contre, les bulles qui étaient en terre cuite, elles étaient restées intactes. Et notamment, on a retrouvé des documents, n'est-ce pas, qui appartenaient à la famille de Baruch. On a retrouvé des bulles avec le nom de Baruch dessus, fils de Neria, d'Eliakim et d'autres personnages qui sont cités dans le livre du prophète Jérémie. Et ça, c'était une des découvertes les plus sensationnelles qui a été effectuée par le professeur Yigal Shilo, puis par celui qui a déchiffré, c'était le professeur Nachman Yigal. Le travail du scribe aussi consistait à conserver les archives royales et les archives du temple, c'est-à-dire que les scribes avaient pour charge de décrire les chroniques des rois d'Israël et des rois de Juda, chroniques qui étaient ensuite placées dans les archives royales et qu'on pouvait consulter le cas échéant. Donc il y avait une fonction de scribe qui était une fonction qui se transmettait de père en fils. Il y avait des guildes de scribes. Par exemple, Baruch appartenait à une de ces guildes qui était Bien entendu, tout le monde était en principe capable d'écrire, mais enfin, quand on écrivait des documents un petit peu sophistiqués, comme des contrats, des choses comme ça, on faisait appel justement à ces fameux scribes. Alors, le travail du scribe nous est décrit minutieusement dans la Bible, il y a de très nombreux textes, Jérémie 8, verset 8, Psaume 25, verset 2, Ézéchiel 9, verset 2, Jérémie 36, verset 23, Ésaïe 3, verset 8, etc., etc., Job 19, verset 23, on l'a cité tout à l'heure, Proverbe 3, verset 3, etc. Le pays d'Israël en lui-même est pauvre en inscriptions de l'époque biblique, parce que, selon Nombre 27, les Israélites écrivaient sur des pierres brutes qui étaient au préalable blanchies à la chaux. Alors, bien entendu, avec le temps, la chaux disparaissait, et puis l'écriture qui était dessus, pareil. Donc, il nous reste peu d'inscriptions, si vous voulez, de cette période-là. Étant donné, ensuite, le peu d'importance militaire du pays et les victoires militaires qui ont été remportées, il y a eu aussi peu d'inscriptions monumentales du type, si vous voulez, de celles que les pharaons ont dressées, des obélisques qui marquaient leur victoire, dans lesquelles le récit des batailles était minutieusement répertorié. Rien de tel non plus en Israël. On avait peu l'occasion de dresser des pierres triomphales de ce type-là. Ensuite, n'est-ce pas, les nombreuses guerres qui ont marqué le pays d'Israël ont pu faire aussi disparaître les quelques-unes qui avaient pu éventuellement être dressées. Par contre, la Bible nous évoque un certain nombre d'inscriptions. Par exemple, les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre. Ensuite, les noms des tribus, des 12 tribus qui étaient écrits sur des pierres précieuses, qui étaient sur l'éphod, que le pectoral que le grand prêtre portait quand il entrait dans le sanctuaire. Nous savons aussi que la lame d'or qui était sur la tiare du grand prêtre portait cette inscription « Kadosh Adonai »,« Sainteté à l'Éternel ». Nous savons aussi par Josué 8, verset 36, que quand le peuple d'Israël a traversé le Jourdain sous la direction de Josué, et d'autre part, nous savons que la Torah faisait devoir à chaque Israélite d'écrire les commandements de Dieu sur les linteaux de ses maisons. Donc ça aussi devait y avoir certainement dans chaque maison des versets de la parole de Dieu qui devaient être ainsi écrits. Alors voilà, si vous voulez, ici nous avons fait un tableau assez général, si vous voulez, de cette histoire de l'alphabet. Alors maintenant, il s'agit de conclure et d'arriver justement à la réponse à ces questions que nous avons posées au départ. Quelle est l'origine de l'alphabet? La forme de l'alphabet est-elle le résultat de l'évolution de la langue cananéenne ou bien d'une autre langue? L'évolution de l'alphabet nous montre que nous avons une simplification. On part d'une quarantaine de signes pour arriver à 22 signes. Et ce sont toutes les étapes par lesquelles nous passons là. Bon. Alors, l'alphabet cananéen et l'ougaritique d'Hérouville sont deux branches du développement d'un alphabet identique, d'un alphabet commun, qui s'est un petit peu transformé. L'alphabet de Pfal, par exemple, est le développement de cet ancien alphabet pour les besoins de la langue cananéenne. Et finalement, il n'y a pas une grande différence entre les écrits de Gval, les plus anciens, et ceux d'Israël, qu'on a retrouvés un peu partout. Par exemple, on a une stèle aussi qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ et qui a été trouvée à Moab, n'est-ce pas, qui s'appelle la stèle de Meshav à Moab. Si vous allez au musée du Louvre, là, vous pouvez la voir. C'est une grande pierre de basalte noire qui a été cassée, malheureusement, par les bédouins qui l'ont trouvée parce qu'ils croyaient qu'il y avait un trésor dedans. Et puis, c'est une écriture qui est une écriture, c'est le de Moabite, mais c'est d'hébreu. Hein, c'est exactement le même alphabet que celui qu'on trouve à Val. Donc ici, il n'y a pas d'évolution. Sur un millénaire à peu près, si vous voulez, il n'y a pas d'évolution. L'alphabet n'évolue pas. À partir du moment où il arrive à sa forme parfaite de 22 lettres, il n'évolue plus par la suite. Peut-être qu'il y a pu avoir une petite influence araméenne qui s'est exercée sur l'hébreu, mais en fin de compte, n'est-ce pas, entre l'alphabet cananéen et l'alphabet hébreu, on peut dire qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence. Alors, d'où vient l'alphabet? Ça, je reprends ma question. Eh bien, l'alphabet, qui s'est ensuite répandu, nous l'avons vu, dans le monde entier, ne concernait que les consonnes au départ, c'est évident, il n'y avait pas de voyelles, pas plus qu'en hébreu actuellement. Et chacune des lettres de l'alphabet a un nom. Ça, Ça, c'est très intéressant. Là, quand nous étudions les noms des lettres de l'alphabet, nous arrivons à des conclusions tout à fait intéressantes. Par exemple, la lettre Aleph signifie un bœuf. Et dans l'alphabet proto-sinaïtique, elle est représentée effectivement par une tête de bœuf. D'ailleurs, pour ça qu'on a, c'est grâce à ce moyen-là, si vous voulez, grâce aux lettres de l'alphabet hébreu moderne, que Sœur Gardiner a pu lire l'écriture proto-sinaïtique. La lettre Bet signifie une maison. Et dans l'écriture proto-sinaïtique, elle a grosso modo la forme d'un plan de maison avec l'entrée, si vous voulez, une espèce de rectangle non fermé qui marque la porte, si vous voulez, une maison vue depuis le haut. Gimel, la troisième lettre, c'est un chameau. Dalet, c'est une porte, etc., etc. Chaque lettre représente un objet. Alors, est-ce que, au départ, la question qui s'est posée, c'était de savoir, est-ce que, au départ, les lettres étaient un petit peu des pictogrammes, un petit peu comme les hiéroglyphes, si vous voulez, dont on prenait le premier son, hein, par exemple, comme en hébreu moderne, Aleph, Bet, n'est-ce pas, quand on lit Gimel, n'est-ce pas, bon, par exemple, je sais pas, moi, quel mot on pourrait prendre, bon, quand on par exemple, le mot Gamal, le chameau, justement, bien, qu'est-ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement la première lettre du mot Gimel, hein, pour la première lettre, et ainsi de suite. Si vous voulez, on lit pas l'ensemble Gimel, n'est-ce pas, comme on faisait, par exemple, en égyptien. C'est, le procédé est différent, il est alphabétique. Alors ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité vers laquelle les savants se sont tout d'abord dirigés. Et puis ensuite, on est arrivé à une impasse. Ce procédé nous a amené à une impasse parce que, finalement, il n'y a pas de ressemblance entre la forme de la lettre telle qu'elle existait au départ et puis son développement ultérieur. Et notamment, justement, dans l'alphabet de Dval et dans les villes cananéennes. Et en fin de compte, on se rend compte que les noms qui sont donnés à ces lettres sont des noms cananéens et ne sont pas des noms, n'est-ce pas, qui sont les noms originels de ces lettres-là. Peut-être que les Cananéens leur ont donné ces noms-là justement parce qu'au départ, la lettre Aleph se représentait par une tête de bœuf, la lettre Bet par une maison, la lettre Guimel par une bosse de chameau, etc., etc., Dalet par une porte, tout ce qu'on voudra. Hein. Alors, eux, finalement, n'ont pas gardé la tradition originale. Les lettres, en fin de compte, disent les savants, ne sont pas nées des images, mais en fait de la simplification de signes anciens. Au début, elles étaient des images, comme dans l'écriture proto-sinaïtique, mais les Cananéens, ça, ne le savaient pas, en fin de compte. Alors maintenant, si nous arrivons au Talmud, il y a un texte intéressant dans lequel Rabbi Yehoshua ben Lévi nous dit ceci, c'est que quand il apprenait l'alphabet aux enfants, il faisait ce que Josué avait l'habitude de faire de son temps. Ça veut dire que, au moment où il apprenait l'alphabet aux enfants, il faisait une phrase avec le nom des lettres. Hein, par exemple, c'est comme si on leur faisait apprendre l'alphabet aux enfants, ce qui serait beaucoup plus intelligent d'ailleurs que de leur faire apprendre bêtement. Par exemple, abattre contre deux, etc. Vous voyez, on peut faire une phrase comme ça, où les premières lettres des mots sont la suite de l'ordre alphabétique, qui a un sens. Et quand on apprend ça, si vous voulez, en 10 minutes, n'importe qui peut l'apprendre. On peut apprendre, il y aurait 22 mots dans une phrase comme celle-là. En 22 mots, n'importe qui, n'importe quel enfant peut l'apprendre. Je ne sais pas quels sont les souvenirs que vous avez, vous, quand vous avez appris l'alphabet. Mais c'est un supplice d'apprendre l'alphabet à un enfant. Et là, les Hébreux, du temps de Rabbi Yehoshua ben Lévi, n'avaient aucun mal, surtout qu'en plus de ça, on le chantait. On chantait la phrase. En 10 minutes, les enfants savaient l'alphabet. Et Joshua ben Nevi nous dit ceci. C'était comme ça que Josué déjà apprenait l'alphabet aux enfants de son temps. Ah, tiens, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et précisément, c'est à l'époque de Josué que l'alphabet pénètre dans les villes phéniciennes et cananéennes. Alors comment savoir quel était le nom des originaux, puisqu'on ne peut pas prendre le nom des cananéens qui sont aujourd'hui Aleph, Bet, Gimel, etc. Eh bien, il faudrait passer par le grec. Alpha, bêta, etc. qui sont finalement des lettres qui sont proches, des noms qui sont proches, justement, qui sont hérités des noms sémitiques, si vous voulez. Et ce qui, mise bout à bout, permettait justement de former un procédé mnémotechnique dans l'esprit de l'élève. Et alors, quand on reconstitue cette phrase, je ne vais pas vous le faire parce que ce serait trop complexe, mais si vous voulez, voilà ce que ça nous donne. Écoutez bien ça. La traduction de cette phrase par laquelle on peut reconstituer, si vous voulez, ça donne sens. Quand on passe par le grec, on a une phrase qui a un sens. Et le sens de cette phrase est à peu près ceci. Ce n'est pas très facile à traduire, je vais traduire grosso modo. Apprends à comprendre ceci. Bon et miséricordieux est Dieu. Il soutient tout être vivant par sa main puissante. C'est pourquoi apprends de lui et laisse-toi enseigner par lui pour être un, pour parler avec une bouche juste. Et sur le front de ta tête, mets un signe entre tes yeux. On décompte. Finalement, qu'est-ce que c'est dans cette phrase? C'est tout le résumé de la Torah. Une profession de foi monothéiste. C'est presque le schéma. Écoute Israël, apprends à comprendre ceci. Bon et miséricordieux est Dieu. Et il soutient tout être vivant par sa main puissante. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est l'essentiel de la foi d'Israël. Donc sois suffisamment humble pour te laisser enseigner par lui, pour étudier sa Torah, pour être juste. Et puis, allusion au phylactère, mets un signe entre tes yeux, sur le front de ta tête, pour te souvenir de ses commandements, les commandements de ce Dieu-là. Donc, si vous voulez, cette phrase résume et enseigne l'essentiel de la Torah, ce qui concerne le Dieu unique, face aux Cananéens, justement. Et ça, c'était très important au moment de la conquête du pays de Canaan. Et donc, si l'on en croit cette tradition talmudique, c'est Josué qui a formé cette phrase et qui l'a apprise aux enfants en la chantant, de façon à ce que, en quelque sorte, les Israélites soient armés pour faire face au polythéisme des Cananéens. Alors, on arrive à ceci. L'alphabet, donc, existe depuis très longtemps. Grosso modo, si vous voulez, depuis l'époque de la fin de l'âge patriarcal, sous une forme beaucoup moins évoluée, et en relation avec la Torah, pour écrire la Torah. Pourrait-on dire qu'il s'agit d'un don de Dieu au patriarche? Je crois qu'on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais je dirais dans une perspective de foi, c'est quelque chose qui apparaît. Les Israélites esclaves en Égypte l'ont emmené avec eux, l'ont transmis aux autres Asiatiques, comme par exemple les gens qui ont écrit les écritures proto-sinaïtiques. Joseph l'a certainement considérablement amélioré, ce système. Peut-être a-t-il écrit les anciennes traditions aussi dans cet alphabet-là. Et puis surtout, n'est-ce pas, pendant le séjour au désert, et au moment de la sortie d'Égypte, les Israélites ont perfectionné cet alphabet et l'ont rendu parfait avec les 22 lettres. Et depuis cette époque-là, il n'a plus évolué. Il n'a plus évolué jusqu'à nos jours. Et le but essentiel de l'invention de l'alphabet, c'était d'écrire la Torah. C'était ça le but. L'alphabet a été composé, a été inventé, je dirais,
donnée par Dieu. Ou bien, mettons, si vous voulez, qu'à la limite, les patriarches aient eu l'intuition générale de cet alphabet-là. Mais de toute façon, c'est par une révélation de Dieu. Donc, si vous voulez, on retombe sur le même scénario, grosso modo. Et cet alphabet, ils l'ont introduit dans le pays de Canaan. Et de le pays de Canaan, il est passé au peuple voisin, aux Cananéens d'abord, aux gens de Galite, aux gens de Gaal, puis aux Moabites, puis aux Araméens, puis aux Grecs, puis aux Latins, puis à nous. C'est en gros ce que l'on peut dire justement de cette invention de l'alphabet.